À l'occasion du 23e Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale, on a rencontré à Arras Benoît Colomba, journaliste d'investigation, co-auteur avec Grégory Mardon de la BD Dulcie du Cap à Paris, enquête sur l'assassinat d'une militante anti-apartheid. C'est paru chez Futuropolis. Benoît Colomba commence par nous dire qui était Dulcie September.
Dulcie September, c'est une combattante de l'apartheid. Elle s'engage très tôt politiquement en Afrique du Sud contre le régime raciste et policier de Pretoria. Elle va faire 5 ans de prison suite à ses activités politiques. Elle va être contrainte de quitter son pays. Elle va partir en exil dans les années 70. Elle va travailler en Europe, d'abord à Londres et puis à Paris, où à partir du début des années 80, elle va représenter le parti de Nelson Mandela, l'ANC, donc pour la France et la Suisse et le Luxembourg. Et c'est une combattante de l'apartheid, une femme en exil, donc c'est vrai qu'elle se retrouve là seule finalement, et c'est vrai que c'est un déchirement, elle laisse sa famille, mais pour elle, ce qui est le plus important, c'est vraiment ce combat de défendre les valeurs de l'ANC, de réclamer la libération des prisonniers politiques. On rappelle que Mandela est en prison comme tous les représentants de l'ANC. L'ANC devient un mouvement en exil, et elle combat également, elle lutte contre le contournement de l'embargo, c'est-à-dire qu'elle dénonce, du 6 septembre, dénonce l'attitude des pays occidentaux et notamment de la France, qui continue de collaborer avec le régime de l'Afrique du Sud et notamment qui continue de vendre des armes. Et ça, évidemment, ça la met en danger.
Assassinée en 1988 à Paris, en France, qu'est-ce qui vous a amené à enquêter justement sur cet assassinat, sur les raisons de cet assassinat, cette rencontre avec Jacqueline Deyrens, qui l'a côtoyée, c'est ça ?
Oui, cette rencontre avec Jacqueline Deyrens est décisive. Je la rencontre en 2010. Elle était très proche de Dulcie September et donc militante anti-apartheid. Jacqueline Deyrens me raconte cette histoire, ce destin incroyable de Dulcie September, et je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire, l'histoire de cette femme qui a été complètement invisibilisée, sortie du paysage. Tout le monde connaît Mandela, personne ne connaît Dulcie September, ou quasiment personne, et raconter la grande histoire derrière cette histoire-là, c'est-à-dire cette collaboration de la France avec un régime raciste et policier. Et donc les deux histoires s'entremêlent parce que Dulcie September enquêtait sur ce sujet. Elle rencontrait des lanceurs d'alerte au sein des offices d'armement. Elle enquêtait aussi sur la collaboration nucléaire entre la France et l'Afrique du Sud. Et ça, c'est un sujet ultra sensible. Il faut savoir que la France, avec Israël, avec le soutien des États-Unis, a contribué à ce que l'Afrique du Sud ait la bombe. Alors officiellement, dans les années 90, l'Afrique du Sud a démantelé ce programme nucléaire, mais c'est allé très loin, cette collaboration-là. Et du 6 septembre, voilà, était un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Elle dérangeait ses intérêts militaro-industriels, tant côté français que côté sud-africain. Elle gênait parce qu'en France, on est en 88 dans une période de cohabitation entre la gauche et la droite. François Mitterrand qui est président de la République, Jacques Chirac, son premier ministre de droite qui est premier ministre. Ça va être l'élection présidentielle de 88. Donc voilà, il y a des règlements de compte un peu à tous les étages. Et puis, elle gêne évidemment le régime de Pretoria, mais y compris au sein de l'ANC. Elle est lâchée en fait dans son propre mouvement parce que voilà, certains au sein de l'ANC qui s'apprêtent à prendre le pouvoir, hein, Mandela va être libéré un an plus tard, va être élu président de l'Afrique du Sud en 94. Elle gêne parce que, en gros, au sein de l'ANC, on n'a pas trop envie de faire de vagues, y compris sur ces sujets qui ont trait à l'armement.
Alors c'est un travail d'enquête impressionnant, hein, qui se lit comme un polar politique, qui explore différentes pistes de l'enquête. Vous en avez parlé, les services secrets du régime de l'apartheid, la guerre intestine à l'ANC, la connivence du complexe militaro-industriel français, sans compter les fausses pistes évoquées aussi dans la bande dessinée. Vous êtes un peu maso quand même, parce que vous vous heurtez à de nombreux murs, hein, les services secrets, le temps qui passe, les secrets industriels, tout ça, c'est très difficile qui était là-dessus.
Oui, c'est une affaire qui peut paraître complexe, mais justement, c'est tout l'intérêt de la bande dessinée, c'est d'essayer de rendre clair et accessible des choses qui peuvent sembler compliquées. C'est comme un puzzle, hein. On essaie d'assembler les pièces d'un puzzle. Alors, il manque peut-être certaines pièces, mais du coup, en allant rechercher ces pièces-là, on y voit plus clair. Et c'est vrai que l'enquête qui a été ouverte en France, qui n'a duré que 4 ans, hein, c'est-à-dire la famille du 6 septembre a déposé plainte et au bout de 4 ans, un non-lieu a été rendu par une juge d'instruction, c'est-à-dire que on ne sait pas qui l'a tué officiellement. Mais il y a eu plein de fausses pistes qui ont été lancées. Donc on essaye aussi de raconter ça, parce que c'est intéressant, de voir des écrans de fumée qui ont été mis au milieu de cette enquête. Et pendant que les enquêteurs, les policiers français couraient derrière vers ces fausses pistes, ils n'allaient pas voir justement du côté peut-être d'autres pistes plus intéressantes.
Alors il y a votre livre, il y a Jacqueline Derain qui se bat encore, il y a la famille aussi du 6 septembre qui continue le combat. Où en est-on un peu de ce combat pour savoir un peu les raisons, pour connaître les assassins en fait de Dulcy?
Pour l'instant, du côté français, la porte de la justice est fermée, mais la famille de Dulcy September est vraiment déterminée à connaître la vérité. Il faut savoir qu'en 2019, la famille de Dulcy September a tenté de rouvrir le dossier côté français en déposant une plainte pour crime d'apartheid. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'assassinat de Dulcy September n'est pas un assassinat comme un autre et que, en tant que représentante de l'ANC, c'est pas seulement un individu qui a été tué, mais justement, la représentante d'un mouvement dont le combat était légitime. Et donc, crime d'apartheid, c'est considéré comme quelque chose d'imprescriptible. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut rouvrir une enquête. Donc, ils espéraient rouvrir en appuyant sur ce levier juridique-là. Ça n'a pas été possible. La justice française a classé le dossier. La famille du 6 septembre a déposé une autre plainte en poursuivant l'État français pour faute lourde et déni de justice, en considérant que le travail n'a pas été fait. Cette plainte-là est toujours en cours. Mais l'élément nouveau, c'est qu'en 2022, l'enquête a été rouverte côté sud-africain. Une unité policière anti-criminalité a rouvert le dossier. Des témoins sont entendus. Donc on ne sait pas jusqu'où ça ira. Et évidemment, ça, c'est un motif d'espoir pour la famille de Dulcy September.
Suite de notre entretien avec Benoît Colomba, co-auteur de cette BD enquête sur l'assassinat de Dulcy September.
La toile de fond de cette histoire, c'est bien sûr la lutte anti-apartheid, mais c'est aussi la connivence de l'État français. Et l'intérêt aussi de cette BD, c'est qu'elle met en lumière cette tradition française de vente d'armes, toujours une bonne nouvelle dans les journaux. L'influence militaire française qui revient sous les feux des caméras au gré des différents conflits, au gré des différentes commémorations, hein, puisque là aussi on est dans les commémorations du génocide au Rwanda. Comment vous voyez un petit peu cette question et ce déni de démocratie en France autour de ces questions-là?
C'est ça qui est intéressant et qui m'a donné aussi envie de raconter cette histoire, c'est que c'est une affaire du passé qui nous parle du temps présent. Et pourquoi elle reste aussi sensible? C'est notamment, à mon avis, lié à l'armement en arrière-plan de cette histoire, comme je l'indiquais, et au nucléaire. La France était et est toujours le troisième exportateur de vente d'armes dans le monde. Et évidemment, c'est une clé de compréhension de cette affaire-là. Il faut savoir que la France a de longue date eu des liens serrés avec le régime d'Afrique du Sud, de Pretoria, et depuis les années 60. Mais depuis 1977, une résolution des Nations Unies interdisait les ventes d'armes. Et donc, ces ventes d'armes ont continué, notamment avec la France, mais de manière clandestine. Et ça, c'est documenté aujourd'hui. On sait qu'au dernier étage de l'ambassade d'Afrique du Sud en France, il y avait un office d'armement qui continuait à faire organiser des rencontres entre des vendeurs d'armes sud-africains, des Français, des diplomates, des agents secrets, des intermédiaires. Enfin voilà. Donc, et la France était une forme de cœur de ses relations économiques au centre de l'Europe. C'était pas seulement en France, c'est-à-dire qu'il y avait entre la Suisse, le Luxembourg, des mouvements bancaires. C'est pour ça que Dulcy September, qui était la représentante de l'ANC pour la France, mais pour la Suisse et le Luxembourg, c'était pas indifférent. Le Luxembourg, la Belgique, il y avait des banques, la Suisse évidemment, par lesquelles passaient ces liens financiers d'armement et le blanchiment de ces ventes d'armes. Donc c'est tout à fait crucial à mon avis, et c'est pour ça que cette affaire-là, c'est une affaire d'État au pluriel.
Benoît Colomba, vous êtes journaliste d'investigation. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, votre prochaine enquête? J'imagine que vous en menez plusieurs en même temps. Mais...
Oui, alors moi je suis journaliste à la cellule investigation de Radio France, donc je travaille sur des sujets très, très différents. Ma dernière enquête qui a été diffusée, publiée récemment, portait sur les coulisses de l'autoroute A69 qui fait débat entre Castres et Toulouse, et je me suis intéressé aux liens économiques et à l'aspect juridique et aux coulisses opaques de ce contrat autour de l'A69. Concernant la bande dessinée, je vais continuer à travailler, bien sûr, sur des enquêtes en bande dessinée. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain sujet. J'ai l'habitude de dire que moi, mes enquêtes en bande dessinée, c'est des projets vraiment long cours qui prennent plusieurs années. C'est un peu comme embarquer sur un paquebot. C'est un temps très long. Donc là, je ne sais pas encore quel sera le paquebot sur lequel je vais embarquer, mais j'ai déjà quelques idées.
Peut-être une dernière question, puisque vous êtes presque un habitué de ce salon du livre d'expression populaire de critique sociale ici à Arras le 1er mai. Comment vous voyez un petit peu ce salon de manière générale?
Ce salon, je le vois d'un œil très positif. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur le débat et on voit en ce moment les attaques contre la liberté d'expression, donc il est plus que jamais important d'avoir des lieux de débat comme ici à Arras. C'est vrai que j'ai un attachement presque sentimental à ce salon parce que il m'accompagne depuis le début, depuis ma première enquête en bande dessinée qui était Cher pays de notre enfance avec Étienne Davodeau, déjà chez Futuropolis, où il était question là de violence politique en France dans les années 60-70. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui.
Benoît Colomba, rencontré à Arras le 1er mai dernier, c'était à l'occasion du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Il est le co-auteur, avec Grégory Mardon, de la BD Dulcie du Cap à Paris, enquête sur l'assassinat d'une militante anti-apartheid. C'est paru chez Futuropolis. Et on vous en conseille vivement la lecture. À noter que la musique qui illustre ce sujet est signée de Abdullah Ibrahim, alias Dollar Brandt, qui est cité dans la BD puisque c'était le musicien jazz préféré de Dulcie September.